fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, merci de nous choisir pour vos informations. Eh bien, dans la toute première partie de cette édition, nous discuterons bien évidemment par téléphone en direct depuis Cameroun. Nous aborderons la crise socio-politique en Guinée-Conakry et bien évidemment avec les violences intercommunautaires survenues en région forestière. Notre invité va également commenter et analyser la crise sociopolitique de la Guinée-Conakry avec nous. Eh bien, si tout va bien, nous aborderons également les sujets sur l'élection présidentielle qui se tiendra donc demain dimanche au Mali. Mais pour le moment, nos invités sont injoignables. Nous prions, nous croisons nos doigts pour qu'ils soient joignables afin de discuter de cette élection également au Mali. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, nous allons tenter de joindre notre premier invité pour discuter de la crise sociopolitique en Guinée-Conakry. Merci de votre fidélité. Merci également à nos radios partenaires, les gens d'FM à Lomé au Togo, la VRA, la Voix de la Résistance africaine basée en Allemagne, également Radio Denigban basée aux États-Unis. Eh bien, avant de prendre notre premier invité depuis le Cameroun, il est quand même guinéen, et nous vous offrons cette belle chanson de Ibra Ba de la Guinée-Conakry.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analysant. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
Bien, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch. Dimanche 16 juillet dernier, les populations de la République de la Guinée, de la Guinée-Conakry, les populations de Kaniaké et Kerzé, de Koulé, et également de Nzékoré et Beila, villes et villages compris, ont été pris d'assaut dans une spirale de violence inouïe et galée dans cette partie australe de la Guinée-Conakry. Alors, une violence intercommunautaire, doit-on dire, ou doit-on l'appeler? Alors, pourquoi le problème d'ethnie se pose tant dans la gestion de la vie politique en Guinée-Conakry? Et nous allons en discuter tout de suite avec notre invité en direct depuis le Cameroun, M. Thiamo Bogola Rabah. Il est secrétaire de l'UFGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Et Thiamo Bogola, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis le Cameroun. Je viens de dire que vous êtes le secrétaire général de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Alors, tout de suite, votre réaction après cette violence intercommunautaire en Guinée-Conakry.
Oui, d'abord, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux différentes familles des deux communautés, aussi bien la communauté Kwele que la communauté Koniaké, mais aussi à la communauté chrétienne et musulmane, parce que ce sont ces deux communautés qui sont touchées. Je tiens également à remercier les forces de l'ordre qui ont mis tout en œuvre pour que le calme revienne après ces trois jours d'affreux de folie. C'est d'abord le premier message que je tiens à adresser, et également au gouvernement de la République de Guinée, et comme j'ai continué à le dire, de prendre les dispositions nécessaires pour que la mission régalienne de l'État s'impose dans la région, principalement en termes de paix et de sécurité. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'insiste encore sur la question pour une bonne représentativité de l'État auprès des communautés. Nique le maître de Conakry, dans 48 heures, plus de 100 morts, ça démontre bien que que l'État est très loin encore des communautés.
Justement.
C'est là le premier message. village.
Mmh. Justement, Thiamo Bogola, et pourquoi justement cette violence intercommunautaire? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que c'est ethnique, hein? C'est déjà ethnique, hein?
Oui, de toute façon, cette violence communautaire n'est pas née aujourd'hui et nous continuons à le dénoncer. Elle est la conséquence de ce qui arrive quand nos systèmes démocratiques ne sont pas faits pour gérer la diversité. Donc c'est un manque de capacité de gestion de la diversité qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans cette région. La particularité de la Guinée forestière, c'est qu'elle est en même temps une région qui a autour de 7 groupes ethniques qui parlent des langues différentes, contrairement aux autres régions où tout le monde parle le même dialecte, la même langue, mais la région elle a 7 langues différentes. Et les deux religions chrétiennes et musulmanes sont très représentées. Donc certes, les autochtones ils sont chrétiens, mais toute la population halogène qui a rejoint la région il y a plutôt 50 ans, 100 ans maintenant, sont des autochtones aussi. Hein. Ils sont également musulmans, donc une diversité religieuse, une diversité linguistique, une diversité de population, mais aussi, surtout, une diversité économique. Et donc, voilà. Donc, les autochtones étaient plus des grands agriculteurs qui accueillaient plus les halogènes comme vous le savez en Afrique, vous le connaissez. Et les halogènes qui arrivaient faisaient plus le commerce et étaient plus dans le transport. Mais avec le libéralisme naissant, dont les autochtones sont rentrés dans ce secteur, dans ces deux secteurs, c'est-à-dire le commerce comme le transport, et cela crée sur le plan économique un certain affrontement. Donc le monopole qui était accordé aux arrivants ne l'est plus, et cela crée également une autre tension économique entre les deux communautés. Voilà, bon, comme
justement
profond. Mais c'est là, il y a également un fait. La région se trouve entre le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée. Et donc, ces pays cités ont connu des mouvements importants, principalement le Libéria. Donc, l'Olimo, qui était à l'époque, qui combattait ça alors, avait sa base en Guinée. C'était pas caché de tout le monde. Donc ces groupes qui étaient formés sont revenus s'installer. Et il n'y a pas eu aucun plan de réintégration de ces groupes. Mais aussi, le président Condé, avant son arrivée, il s'est appuyé également sur les Donzo, que vous connaissez aussi de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels qui sont des milices parallèles, aujourd'hui, qui, contrairement, au lieu de que ce soit l'armée républicaine qui assure l'intégralité de la sécurité, ils sont là. Et voilà, tous ces éléments regroupés dans la région, est à l'origine de tout ce qui se passe. Maintenant, cela, il faut l'ajouter, comme je disais à l'introduction, la distance de l'État par rapport à la région. C'est plus de 1000 mètres de Conakry et la représentativité de l'État est très faible dans la région en termes de sécurité, d'infrastructure.
Justement.
Voilà où des causes profondes, hein, on peut développer des jours et des jours, on ne pourra pas finir.
Justement.
Maintenant, pour ce qui est arrivé tout récemment.
Oui.
Ce sont donc pour moi ces ingrédients regroupés qui est à l'origine de quelques mouvements depuis quelques 20 ans où les chrétiens généralement pendant les mois de carême veulent continuer à vivre comme bon les semble, comme leur religion le demande, et les halogènes veulent également qu'ils se conforment. Donc il y a des affrontements récurrents pendant les mois de carême entre ces populations. Et pendant les élections, généralement, il y a des problèmes parce que dans les communes ou pour les circonscriptions, les halogènes veulent être les candidats alors que les autochtones le veulent aussi. Donc à chaque fois que nous approchons des élections, ces violences intercommunautaires naissent. C'est ce qui s'est passé en 1991. Mais
donc,
comme l'État est si absent en termes de justice, l'impunité devient également le facteur qui accélérateur de cette situation.
Donc, en gros, rapidement, Thiamo Bogola, et donc ces violences intercommunautaires est purement ethnique et politique également. Est-ce qu'on peut l'affirmer comme ça aussi?
Pardon?
Est-ce qu'on peut dire que cette violence intercommunautaire dans ces régions, en Guinée-Conakry, est également politique?
Oui, elle est plus politique parce que la vérité, c'est que ces populations ont toujours vécu ensemble durant des années. C'est l'arrivée du multipartisme qui a été l'accélérateur de cette violence. Et si je vous disais bien, l'arrivée du professeur Alpha Condé à l'époque, l'opposant historique, quand il est venu dans la région en voulant implanter son parti, il l'a implanté uniquement sur une communauté. Donc si vous voyez, 90% voire 99% de ces militants n'étaient que musulmans, ne sont que musulmans et globalement tous de la communauté Konyaké. Alors, et vu que c'était un parti d'opposition, contrairement aux autochtones qui militaient pour le parti de l'ancien Akonté, donc il a créé énormément d'affrontements, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs aux premiers affrontements de 1991. Et le professeur Alpha Condé, aujourd'hui président, c'est là déjà de la puce, n'a jamais fait aucun effort quand il était opposition pour pouvoir régler cette situation. C'est naturellement, et c'est là qui conduit. Donc, une fois au pouvoir, ça pose un problème
justement.
De vengeance aussi. Voilà.
Exactement. Donc, parlant justement de la gouvernance de Alpha Condé, ça, on va en parler vers la fin de cette émission. Eh bien, depuis la prise du pouvoir du président Alpha Condé en Guinée-Conakry, les élections, notamment législatives, tardent à se faire. Alors, comment l'expliquez-vous? Il est quand même à rappeler qu'un accord vient d'être signé tout récemment entre pouvoir et opposition, et les élections législatives sont encore reportées, hein, Thiamo Bogola.
Oui, évidemment, ces élections étaient prévues dans l'accord de Ouagadougou pour se tenir 6 mois après les présidentielles. C'était le calendrier accepté aussi bien par les militaires que la société civile et la communauté internationale. Et malheureusement, après ces élections, les partis ne se sont pas compris parce que le président de la République, le président Condé, voulait absolument refaire la liste électorale et changer l'opérateur de saisie. Il voulait également refaire la CENI, ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal de discussions inutiles qui a traîné. Mais aussi, vous savez, nous sommes sortis des élections présidentielles très fragilisées avec 51 contre 49. 51% pour la mouvance et 49% pour l'opposition. Donc le pays est sorti des élections très divisé. Et cette division devrait normalement se calmer si le président Condé n'avait pas mis en chômage technique les 49%. Parce que nous nous sommes retrouvés avec 49% de la classe politique qui se trouvait en chômage politique. Ils ne sont ni à l'Assemblée, ni dans les communes, ni dans les régions, et ni dans le gouvernement. Donc, tous les ingrédients, tout était réuni pour que le pays continue à vivre dans une violence politique. Parce que avoir 49% de ton opposition en chômage technique pendant 3 ans, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait la paix. Voilà pourquoi ça traîne, et également dans la volonté absolue de pouvoir changer cette tendance, parce qu'au premier tour, il a eu 18% de l'électorat. Il a fallu des alliances importantes qu'il a faites pour pouvoir avoir les 51%. Or, ces alliances étaient effritées directement dès sa prise de pouvoir. Donc, la Sanakuyate a rejoint l'opposition. Nous autres, nous avons rejoint l'opposition parce que tous les avocats, aucun accord n'a été respecté. Et ainsi de suite, tous ceux qui l'ont donné le pouvoir, donc le président Condé s'est retrouvé avec ses 18%. Et avec ces 18%, naturellement, il n'avait aucun intérêt à organiser les élections. Il fallait s'attendre qu'il puisse vraiment peut-être avoir l'assurance qu'il s'est implanté et qu'il a c'est tout ça qui sont derrière, qui ne sont pas les non-dits de ce report. Maintenant, il estime maintenant qu'il est prêt et qu'on peut aller. C'est pour ça. Et maintenant, et surtout que le pays va mal. Les investisseurs abandonnés, le pays, la pauvreté atteint un niveau criant, l'insécurité, les mouvements, les manifestations. Donc, il se trouve dans l'obligation de le faire après 3 ans. Bon, justement. C'est pas la question. Maintenant, cet accord qui a été trouvé, c'est un accord bancal, mais c'est mieux. Une élection vaut mieux parce qu'aujourd'hui.
De toute façon, l'opposition, c'est quand même dit globalement satisfaite de ce dialogue entre pouvoir et opposition.
Oui, l'opposition. De toute façon, le plus important pour nous aujourd'hui, que ce soit opposition ou mouvance, moi d'ailleurs, de toute façon, moi je suis un grand centriste, comme tu peux le constater, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de retrouver la stabilité, que les institutions soient mises en place. Vous savez, je continue à dire, monsieur le président Condé, il est âgé. Et si vous n'avez aucun plan au niveau de l'Assemblée comme plan de succession, et vous n'avez aucun investisseur sérieux, ne peut mettre son argent dans un pays où il n'y a aucun plan de succession. Et deux, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui en Guinée en cas de maladie ou de vacances de pouvoir.
Justement.
Donc, toutes ces questions poussent aujourd'hui toute l'opposition, mais aussi la mouvance, mais aussi la communauté internationale en priorité, à vouloir coûte que coûte une élection. C'est pourquoi chacun s'accorde à faire des compromis pour que ces élections aient enfin lieu.
Justement.
Eh bien. Parce que c'est une nécessité vitale. La
justement.
Population souffre.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Eh bien, Tiamo et Bogola, et merci d'être toujours avec nous en direct depuis le Cameroun. Je le disais, vous êtes le secrétaire général de l'UGDD, Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement. Autre problème dans la vie sociopolitique en Guinée-Conakry, c'est également le vote qui est souvent, le vote qui est souvent ethnique en Guinée-Conakry. Est-ce que les politiques guinéens, y compris le président Alpha Condé, s'en servent pour manipuler les populations?
Oui, la problématique de la démocratie africaine en général et guinéenne en particulier, c'est cette question de la diversité ethnique de nos pays. Ce n'est pas une spécialité guinéenne. La Guinée, contrairement aux autres pays, a 4 régions naturelles, comme le mot l'indique, c'est vraiment naturel, où les populations sont différentes dans leur comportement et mode de vie. Et géographiquement, ces 4 régions sont différentes. Et donc, depuis 1958, nous nous sommes retrouvés sur ce territoire où il n'y a où nous sommes vraiment différents. C'est ça la vérité. Donc, il faut construire une nation. Une nation comme telle, je pense qu'il faut des lois. Et moi, nous disons que, quelles que soient les politiques, quel que soit tout ce qu'on fera, les politiques vont toujours s'accruper sur cette division. Donc, pour mettre fin à cette situation, moi, j'ai pensé à une situation très simple, à une loi très simple. Nous ne sommes pas les premiers. Les États-Unis, il y a 51 États et une multitude d'ethnies, de races, de communautés et tout. Si vous prenez la ville de New York, sur 100 personnes, vous trouverez 70 nationalités d'origine. Plus de 70 nationalités sur 100 personnes que vous trouvez au hasard dans un métro à New York. Mais ils arrivent à gérer cette diversité. La Suisse où vous êtes, vous comprenez bien. La Suisse, c'est un État, en termes de superficie, n'est pas très grand, mais elle est très diversifiée. Mais comment elle arrive à gérer sa diversité? L'Indonésie, c'est la même chose. Mais comment ces pays-là sont devenus des grandes démocraties? C'est parce que nous avons mis des têtes de loi qui encadrent cela. Aux États-Unis, vous pouvez avoir 50% de l'électorat, mais si vous n'avez pas plus de 50% des États, vous ne pouvez pas devenir président. Parce que tout simplement, il y a cette question de la double majorité. La Suisse également a cette question de la double majorité. Donc, à la date d'aujourd'hui, ce que nous proposons pour la Guinée, c'est d'instituer cette question de double majorité avec des quotas minimum dans les régions. Il faut donner plus de pouvoir aux 4 régions et permettre à ce que tu sois pas président sans avoir au minimum 10% dans les autres régions. C'est-à-dire si tu... Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec Selou Dalin qui a eu 199% de l'électorat de sa région, Alpha Condé qui a eu 99% de l'électorat de sa région. Donc les deux se sont retrouvés. Ce sont les deux autres régions qui ont fait l'arbitrage au deuxième tour. Donc il faut le rendre cela constitutionnel. Si nous pouvons le faire, il faut absolument que nous donnions plus de pouvoir aux régions et donner plus d'autonomie aux régions.
Absolument.
Et
absolument, oui.
Cela permettra également de tenir compte de ces questions de ségrégation où des partis pourront se retrouver peut-être dans le conseil régional ou plus dans la commune, et ainsi de suite. Et comme les régions seront plus attrayantes, et vous verrez que la présidence va perdre son contenu. Aujourd'hui, tout le monde court vers le poste le plus prestigieux, qui est la présidence.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thiamo Bogola Rabah, secrétaire général de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis le Cameroun. Nous avons discuté de cette violence intercommunautaire survenue dimanche dernier en Guinée-Conakry, notamment à Koniaké et également à Nzéré-Koré. J'espère que je prononce bien ces villages. C'est quand même un peu difficile pour moi puisque je ne suis pas d'origine guinéenne. Également, il y a Béala, il y a Guerzé également. C'est ça, monsieur Thiamo Bogola.
Merci beaucoup.
Merci et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Merci beaucoup et je profite de l'occasion pour encourager mes compagnons, mes frères maliens pour qu'ils aillent aux élections
dans la paix.
Exactement. Également encourager et remercier le peuple togolais pour leur maturité nous les encourageons à bien gérer également les résultats qui vont parvenir bientôt.
Exactement. On en parlera de tout cela et du Mali bientôt avec notre invité Alain Jules, journaliste blogueur également au Togo, avec nos invités du collectif Sauvons le Togo. Merci beaucoup, Thiamo Bogola, de nous accompagner depuis le Cameroun. Au revoir. Bonne soirée.
Je vous remercie. Au revoir. Merci. Bye bye.
A, voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, merci de nous être fidèles sur le www.canalk.ch, également rediffusion sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Eh bien, après ce dossier sur la vie sociopolitique en Guinée, Conakry, qui traverse également une crise, il y avait également une violence intercommunautaire faisant près de 100 à 150 morts. C'était vraiment regrettable. Nous en avions discuté avec un frère, un panafricaniste guinéen, Thiamo Bogola Haba, depuis le Cameroun. Effectivement, les Maliens se rendront également demain aux urnes pour élire leurs nouveaux dirigeants. Et bien, se référant à la loi du 4 septembre 2006 qui régit les conditions de validité des candidatures à l'élection présidentielle au Mali, la Cour constitutionnelle a fixé la caution à 10 millions de francs CFA, alors soit un peu plus de 15 200 euros, et qui seront remboursés à hauteur de 50% en cas de score supérieur à ces 5% des voix au premier tour. Bien près d'un an et demi après le coup d'État de mars 2012, qui a provoqué l'annulation de l'élection présidentielle prévue quelques semaines plus tard, le Mali renoue avec le processus démocratique en se préparant à l'élection présidentielle prévue demain donc. Eh bien, la Cour constitutionnelle, qui a reçu un nombre record de 36 dossiers de candidature, en a validé donc 28. Eh bien, 8 dossiers ont été rejetés faute de paiement de caution ou pour n'avoir pas enregistré un nombre suffisant de parrainages. Eh bien, parmi les prétendants à la magistrature suprême, quelques incontournables de la politique malienne, mais aussi des jeunes et pour ceux qui tentent de se faire entendre dans un pays miné par des mois de guerre et la présence des djihadistes dans le Nord. Eh bien, pour en discuter sur l'enjeu électoral effectivement au Mali et demain, et nous allons en discuter tout de suite en direct depuis la France, et notre ami journaliste blogueur Alain Jules. Bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup Alain Jules de nous accompagner en direct depuis la France, et également et le Malien journaliste Tchambel Gimbayara, il est journaliste à La Voix du Mali en France. Bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs de Canal K, bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Merci, je le disais tantôt, et les Maliens se rendront aux urnes demain pour élire leurs nouveaux dirigeants. Eh bien, après des mois de guerre, hein, tout le monde connaît l'histoire de ce grand Mali et des djihadistes, l'intervention de la France et qui, entre guillemets, a sauvé ce pays. Alors, la caution de l'élection présidentielle qui se déroulera demain donc au Mali est fixée à 10 millions de francs CFA. Donc, pour un pays relativement pauvre comme le Mali, alors pensez-vous que le montant de la caution est juste, ou est-ce que c'est pas trop élevé, Tchambel Gimayara?
La caution en soi est indicative à ce titre que ça remplit certains nombres de conditions. Il faut quand même être de nationalité malienne, être disposer de ses droits civiques, être en mesure d'engager une caution raisonnable pour se faire rembourser à hauteur de 5% au cas où tu gagnerais les élections, et surtout jouir de ses droits civiques. Mais de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas assez de parrainage encore. Il faudrait vraiment limiter ces parrainages-là, même si la caution n'est pas à revoir faramineusement à la hausse. Mais il faut quand même impliquer une révision dans le sens d'impliquer beaucoup plus de parrainages, parce que nous avons 701 communes, plus de 147 députés. Donc voilà, en quelque sorte, de ce côté-là, le système de parrainage est à revoir sans nul doute pour limiter les candidatures farfelues.
Justement, Tchambel Gimbara, est-ce que vous pensez vraiment qu'après toutes ces guerres au Mali, et le Mali est prêt pour quand même organiser une élection transparente dans ce pays?
Prêt, c'est beaucoup dire. Les enjeux de l'élection sont énormes. Cette transition avait pour mission exclusivement de libérer le territoire national et d'organiser des élections. On n'est jamais prêt dans un pays de 1 240 000 km², dans un pays où un fichier électoral définitif n'était pas là, on est passé du recensement administratif à caractère électoral ou recensement administratif à vocation d'état civil, la race. Donc, où 6 millions de Maliens demain doivent aller choisir parmi les 28 candidats, dont un sérité, donc 27 candidats, un président ou deux, au mieux, qui s'affronteront dans 11 jours, dans 2 semaines encore, pour un second tour. De ce point de vue-là, là, les enjeux en sont là. Mieux c'est, une transition est courte, mieux c'est pour tout le peuple. Il faut sortir de cette situation, non seulement pour continuer à discuter, pour continuer à travailler, pour continuer à sécuriser, pour continuer à libérer le pays, à rasseoir le Mali dans son intégrité territoriale partout, mais aussi et surtout pour avoir la main de l'ONU pour que l'opération Serval et le MINUSMA passent la main au MINUSMA pour que finalement ce soit l'ONU qui s'investisse pour aider le Mali à sortir de cette situation. Mais attention, cet effort-là, cet échange-là, doivent passer irrémédiablement par la case de la justice. Et la justice est valable pour ceux qui sont rendus coupables des crimes au nord du pays, mais également ceux qui ont baigné dans l'insécurité, la violence aveugle au sud. Voilà de ce point
justement
de vue
l'enjeu de ce On va donner également la parole à notre ami panafricaniste Alain Jules, journaliste blogueur et d'origine camerounaise. Eh bien, Alain Jules, la caution de l'élection présidentielle, c'est quand même un peu beaucoup. 10 millions de francs CFA pour ce pauvre pays, le Mali. Est-ce que le Mali est prêt pour ces élections présidentielles qui se tiendra quand même demain au Mali? Alain Jules.
Quand on voyait le Mali, il y a eu quand même, il y a 27 candidats, vous vous rendez compte? 27 candidats, c'est-à-dire que il y a une élection présidentielle et dans un petit pays, parce que le Mali n'est pas un pays grand comme les États-Unis, encore moins avec une population conséquente, c'est-à-dire comme celle des États-Unis. Pour petit rappel, selon les dernières sources, en fait, au niveau des recensements, le Mali a une population d'environ, je crois, à moins que je ne me trompe, hein, c'est probablement 15 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Et il y a 27 candidats pour une élection présidentielle dans un pays de 15 millions d'habitants. Donc, je me dis que la somme, elle est dissuasive. Et peut-être c'est bien. C'est pour cela que certains candidats ont été recalés, comme vous l'avez précisé d'entrée. Ça veut dire que c'est pour quand même qu'il y ait une élection saine, on va dire. Même comme il y a des soupçons aujourd'hui de fraude par rapport aux cartes Nina, j'ai appris hein, qu'il y en a 2 millions qui sont distribués comme ça, sans photo. Donc, il y a des risques. Maintenant, pour revenir au niveau de la dette de l'élection, on se dit quand même qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que si le pays n'est pas encore sécurisé, parce que je vous rappelle quand même que des soldats français ont encore été attaqués il y a 2 jours, à Gao, ça veut dire qu'il n'y a rien de sécurisé. L'opération Serval, pour moi, que j'ai toujours considéré comme de l'esbrouf, c'est simplement une opération mise en place pour simplement avoir la base de Tessalit, au Mali, pour pouvoir sécuriser le transport de l'uranium que la France prend au Niger. C'est simplement ça. C'est-à-dire que quand on veut aider un pays ami, on va jusqu'au bout. C'est pas parce que les Français sont encore sur place que ça sert à quelque chose. Bon, il y a le gros des troupes qui est revenu en France. Ça veut dire que c'est la France qui impose cette élection. Pour moi, c'est très tôt. Je crois que, d'ailleurs, il y a certains candidats qui l'ont dit, hein, ils vont quand même aux élections, parce que bon, ils ne veulent pas faire la politique de la chaise vide, moi je les comprends parfaitement. Mais le problème, c'est que cette élection, elle est imposée par l'Élysée, les Maliens n'ont pas leur mot à dire dessus. On a beau raconter tout ce qu'on veut, ils n'ont pas leur mot à dire dessus. Le processus, pour moi, il est pipé. Donc, pour l'instant, moi, c'est ça que je peux dire
d'accord,
par rapport à cette élection-là.
D'accord.
Et c'est triste hein, dans la
d'accord.
Là-bas.
Alain Jules, puisqu'il y a un Malien avec nous, un journaliste malien, Tiambiel Guibara, et notre ami panafricaniste Alain Jules pense que cette élection présidentielle au Mali, cette élection qui se tiendra demain donc au Mali, est imposée par l'Élysée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Imposée par l'Élysée, c'est quand même un peu trop dire non, parce que je ne pense pas que ce soit
à Matignon ou à l'Élysée qu'on a confectionné les listes électorales, qu'on a dressé le nombre de candidats. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle française qui a retenu la liste de 27 candidats encore. Mais c'est sûr qu'il faut reconnaître que la France a volé au secours du Mali. La France est venue en pays ami, en pays frère, aider le Mali. Le Tchad a payé le prix fort pour cette libération. L'Afrique s'est mobilisée. Le monde a été unanime pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Et cela a bien sûr un coût. Et l'ONU s'est engagée. La communauté internationale a soulevé plus de 3 200 000 euros pour venir en aide pour la reconstruction du pays. C'est un geste. C'est un symbole. Et au Mali, maintenant, de prouver sa bonne foi en organisant des élections plus ou moins libres, transparentes et crédibles dans cette situation difficile ou d'après-guerre, où au sud, il y a une junte qui n'a pas complètement dit son dernier mot, et où également au nord, les irrédentistes du MNL restent armés, restent dissuasifs, restent présents dans le jeu politique. Je crois que c'est la volonté ferme des autorités qui avait pour, de la transition, qui avait pour principale deux missions, libérer le pays et organiser des élections libres, transparentes, et démocratique. En cela, que toutes les conditions ne soient pas réunies, soit, mais il faut quand même tenter de limiter les dégâts et d'organiser des élections pour qu'un président légitime revienne reprendre le flambeau du Mali et continuer cette lutte-là. À mon avis, c'est une noble mission, c'est une mission juste, mais attention à la précipitation. La France est un pays ami, mais elle ne peut pas complètement s'imposer dans une ingérence qui est inadmissible par le peuple malien et inadmissible par les autres peuples africains qui ont aidé le Mali.
Oui, Alain Jules, vous avez une réaction par rapport à l'intervention de notre ami Tiambel Guimayara.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que on est complètement dans la grande. Je suis africain, c'est vrai. Mais on est dans ce qu'on appelle la grande naïveté africaine, c'est-à-dire que toujours penser que l'Occident, nous sommes amis avec l'Occident. Franchement, c'est tellement amusant de voir que les Maliens eux-mêmes, n'est-ce pas, c'est Papa François Hollande, Papa François Mali, etc. Les superlatifs, le très grand, le très ceci. Non, soyons sérieux en certains moments. Je veux dire à mon frère malien que la France n'est pas venue au Mali avec des intentions pour le retour à la légalité constitutionnelle. Franchement, ça c'est le dire vraiment, il faut vraiment apporter des preuves factuelles pour le dire. D'autant plus que ils sont arrivés, ils ont essayé de renvoyer simplement des djihadistes dans le désert. Est-ce qu'ils sont allés dans le désert combattre ces gens-là ? Ces gens agissent aujourd'hui. J'en veux pour preuve, hein, je veux dire, vous savez que le Mounjaro a déclaré qu'il a demandé aux musulmans de ne pas aller vers les bureaux de vote. Que demain, ça allait être perturbé, ils allaient attaquer les bureaux de vote, et ils allaient attaquer les régiments militaires et de gendarmerie, de police, etc. J'espère que mon frère est au courant de ça. Ça veut dire quoi ? Si ce mouvement-là réussit à dire qu'ils vont attaquer des bureaux de vote, ça veut dire qu'il n'y a rien déstabilisé. Ça veut dire qu'ils sont encore sur place. Alors, l'opération servait à la servir à quoi ? Ça, c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Parce que c'est très beau, c'est bien beau de dire, oui, voilà, on est venu nous aider, le Tchad a payé au prix fort. Et quand on dit que le Tchad a payé au prix fort, ben oui, justement, les Tchadiens se sont battus. L'armée tchadienne a été saignée, il faut le dire. Et quand les Tchadiens tuaient des djihadistes, les Français voulaient la paternité de ces victoires tchadiennes. Tout le monde le sait, nous sommes ici en France, on le sait très bien, on l'a vu, hein, où l'Élysée refuse de reconnaître la mort d'un djihadiste, simplement parce que les Tchadiens ont dit avant. Donc, que des intérêts, et des intérêts économiques, moi je le redis encore une fois, la France n'est pas venue au Mali en tant que pays ami, c'est pour ses intérêts, c'est parce qu'aujourd'hui le Mali est un pays riche, il y a des réserves en uranium, en or et en hydrocarbures qui ne sont pas encore exploitées, et c'est pour cela que la France est là-bas. Le reste, franchement, c'est un conte pour enfants. Voilà, moi c'est ce que je peux dire
d'accord,
à mon frère
d'accord,
qui est là sur
d'accord.
Le plateau.
Tiambel Guy Bayara, j'espère que vous avez suivi encore une fois Alain Jules qui n'est pas d'accord avec cette intervention militaire de la France au Mali. Et Alain Jules pense que c'est par intérêt que la France voulait intervenir dans ce pays, mais malheureusement, il faut le dire, c'est la France quand même qui a pu intervenir et pour entre guillemets, je le dis toujours, et sauver ce pays du bain des djihadistes, et quand même, et donc il revient, on pense qu'il revient aux Africains même de s'organiser, et au Mali de s'organiser pour préparer cette élection. Est-ce que vous avez une réaction, et Tiamel Guy Bayara?
Oui, tout à fait. Je dirais à mon ami Jules que ce n'est pas par naïveté, c'est du réalisme. On ne peut pas dénier quand même à la France d'avoir versé son sang, bien vrai que ce sauvetage du Mali, cet appel au secours, a été fait sur la demande du président intérimaire malien et que ça a lieu 50 ans après 50 ans d'indépendance, après que les tirailleurs sénégalais ou tirailleurs maliens, si vous voulez, ou africains tout simplement, aient payé le lourd prix pour libérer la France du joug du nazisme. Ce n'est qu'un retour normal de l'ordre des choses. Et la richesse du sous-sol malien appartient au peuple malien. C'est aux autorités légitimes, légales du Mali d'en mettre à la disposition des populations maliennes. Que les frères armés du Tchad viennent payer le prix fort pour libérer le Mali, le peuple malien en sera toujours reconnaissant et cette reconnaissance leur sera tendue. On sait, la diatribe le dit, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Le Mali n'en est pas aussi naïf que ça, mais il faut reconnaître que cette intervention était pas de plus dans l'harmonisation, dans l'accalmie, dans l'apaisement des relations franco-maliennes. Elles ont été très certainement tendues en cela que le dernier soldat français a quitté le sol malien le 20 janvier 1961 avec la fermeture de la base de Tandini. Ils sont partis, les Français sont partis comme ils le savent. Il y avait une armée malienne qui a été bâtie par le premier régime de Mouribou Keïta de 60 à 70 et que le régime militaire a abaissé, que la démocratie est venue n'a pas renforcé. Il y avait des difficultés inhérentes à la gestion de cette armée-là qui n'était pas république, qui avait des difficultés pour faire face à l'intégrité territoriale d'un vaste pays comme le Mali, 1 240 000 km², où les frontières étaient poreuses, où on avait tombé carrément dans une certaine décrépitude en faisant de cette zone-là une base arrière de l'Algérie. C'est aussi cela la vérité, l'implication de l'Algérie, le GSPC qui a eu le domicile là, avec la bénédiction de certains pays de la sous-région, comme la Mauritanie, comme d'autres. Ça, ce sont des réalités géopolitiques qui sont réelles. Tawdini est une base stratégique, certes, mais Tawdini est malien, restera malien. Et le sort des Tawdini, c'est aux Maliens de le prendre en charge, et non par une mirobolante vision occidentaliste qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, des États-Unis ou de la France qui viendrait faire une base là. Ce n'est pas réaliste. Je ne pense pas.
D'accord.
Je ne pense pas que le Moujaou ait une force de frappe en ce moment.
Merci beaucoup. Merci Tiambel. Nous allons continuer quand même ce débat sur l'élection présidentielle qui aura lieu demain dimanche donc au Mali, et nous croisons le doigt pour que cette élection présidentielle se passe dans le calme, la tranquillité, surtout la transparence des élections. En Afrique francophone, s'oppose souvent, et n'est-ce pas, dit-on, Alain Jules, que le vin est tiré, il faut le boire. Et il y a également beaucoup de panafricanistes qui ne sont pas aussi en phase avec et beaucoup de Maliens qui pensent que le Mali est actuellement prêt à organiser ces élections, où il faut coûte que coûte l'organiser. Et puisqu'on dit que, comme vient de le soulever et notre confrère Alain Jules, on dirait quelque part que c'est la France qui pousse le Mali à organiser ces élections, et ce que vient de dire également Tiambel Guy Bayara, que non, et il revient également à la France, au Mali de s'organiser pour ces élections, pour la souveraineté du Mali. Eh bien, le vin est tiré, il faut le boire. Alain Jules, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même une paix au Mali? Et dans cette élection présidentielle, il y a quand même une femme, Aïdara Aissata Cissé. Est-ce que vous pensez que cette femme, jeune femme, a la capacité de pouvoir remporter les élections au Mali, connaissant le grand nombre de la force de dominance du sexe masculin dans la politique africaine, Alain Jules?
Moi, c'est vrai, on croise les doigts, on veut que ça se passe bien. Vous savez, pour moi, il faut bien que les sexes se passent dans de bonnes conditions. En revanche, ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui en Afrique, après 50 ans d'indépendance, de demander à la France de venir faire que tout se passe bien. franchement, c'est pas possible. On a des crises en Afrique, les Africains peuvent régler leur propre crise. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la puissance militaire. Parce que qui dit crise, pour pouvoir régler sa crise, il faut avoir une puissance militaire. Et ce que je reproche, moi, aujourd'hui, finalement, aux Maliens, c'est d'avoir accepté, n'est-ce pas, ou d'avoir demandé à la France de venir s'ingérer dans leurs affaires. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Les Français resteront au Mali. Il y a un document français L'Express aujourd'hui qui disait que il n'y a pas de solution possible, la France restera. C'est pas parce qu'on dit que l'ONU substituera la France, c'est pas possible. Et on sait pourquoi. Pourquoi la France va rester. Ça veut dire quoi? Il faut toujours qu'il y ait des petites poches, donc ils ne viennent pas sécuriser le Mali, non. Il faut toujours qu'il y ait des petites poches pour justifier leur présence. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et voyez-vous, moi aujourd'hui, si l'élection se passe bien, et qu'il y a un président élu, notamment si Mme Haïdara est élue, ce serait une bonne chose, mais elle aura quel pouvoir? À partir du moment où le MNLA est là, à partir du moment où le Mundjao est encore là, dans le Nord, quel pouvoir elle aura? Et c'est quand je dis que je reproche, ce que je reproche au Malien, c'est de faire un peu comme Mandela. J'espère que le nouveau président malien va faire comme Mandela. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un pardon. Il faut arriver à un réel pardon pour que le Mali fonctionne. C'est pas cette élection-là qui va changer quelque chose. Moi, je ne le crois vraiment pas. Je ne le crois pas. Tant qu'on ne pourra pas parlementer, pourparlers avec les Touaregs, parler avec le MNLA, justement, tant qu'on ne pourra pas avoir une force qui boutera hors du Mali, véritablement le Mundjao et toute cette horde de groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc voilà, c'est bien beau l'élection, mais si derrière, ça n'apporte rien, c'est-à-dire que légitimité du nouveau président, il n'aura pas de doute possible par rapport à ça, mais derrière, quel pouvoir cette personne aura? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, c'est pas d'avoir un président.
Exactement.
Si on a un président et qu'il ne peut pas gérer le
absolument,
Nord, qu'il
absolument.
Ne peut pas aller à Kidal, à quoi ça sert?
Donc,
c'est tout ça qu'il faut régler.
On va donner également la parole à notre ami Tiambel Guimbara, journaliste malien à la voix du Mali en France. Tiambel Guimbara, le nord du Mali, plus précisément Kidal, est toujours insécurisé, alors que la France et l'opinion internationale est à cheval sur quand même la date de domaine pour les élections présidentielles. Dans ces conditions, pensez-vous que ces élections peuvent amener la paix au Mali, Tiambel Guimbara?
Oui, les élections sont un pas, un grand pas. Un grand pas pour doter du pays d'autorité légitime pour pouvoir continuer les deux missions qui sont la libération du pays et la sécurisation. Continuer à discuter avec tous les Maliens autour d'une table afin de trouver une solution au problème. Continuer en posant les principes d'une justice républicaine. Punir ceux qui doivent être punis, relâcher ceux qui n'ont à qui le peuple n'a rien à reprocher. C'est à ce prix-là que le nouveau Mali se construira, en accord avec les Maliens, d'accord sur une gestion du pays et dans l'orientation qu'ils vont donner à cette élection. Maintenant, l'opinion malienne sera intraitable par rapport à la question de Kidal. Elle est unanime qu'il faut des élections sur toute l'étendue du territoire national, y compris à Kidal. Même si ces conditions sont difficiles, même si l'insécurité est là, même si le MNLA n'est pas désarmé, qu'ils ne sont pas cantonnés, qu'ils continuent à circuler entre les gens avec leurs armes, même si ils ont commis ce forfait-là d'ouvrir la boîte de Pandore en acceptant les islamistes, en agressant plus de 100 militaires maliens, les tuant de manière sauvage avec la complicité de l'armée, le peuple malien veut que Kidal demeure et reste malien et que des élections libres et transparentes soient aussi organisées à Nderboukane, à Kidal, à Agelog, que partout dans le sud, à Oulé-Sébou, à Dili, à Djema ou à Balal. Ça, c'est unanimement, le peuple malien est d'accord avec cela et il sera intraitable là-dessus.
Merci, Tiambel Guimbara. Votre dernière réaction par rapport à cette élection qui se tiendra au Mali demain dimanche, Alain Jules?
Écoutez, moi, vous savez, on entrepris. On se dit, bon voilà, il faut que ça se passe bien, il faut que les élections se passent de très bonne manière, qu'elles soient transparentes, et effectivement, même comme je souligné tout à l'heure, par rapport aux cartes, les cartes d'électeurs, c'est-à-dire les cartes qu'on appelle au Mali les cartes Nina, il y a un risque de fraude, mais on ne sait pas qui paye derrière, mais qui sont derrière ces fraudes-là, c'est-à-dire que on a distribué à certains Maliens dans plusieurs zones, selon nos informations, bien évidemment, hein, donc que je ne peux pas confirmer ni affirmer pour l'instant, plus de 2 millions, je dis bien 2 millions de cartes Nina sans photo, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, moi, on me donne, je suis pas malien, je mets ma photo dessus, et puis je vais voter, par exemple. Donc, c'est ce risque-là. Ben, j'espère que, bon, ça ne va pas se passer de cette manière-là et que les élections se dérouleront de bien belle manière, simplement. Moi, c'est le seul mot que je peux avoir.
Justement.
Mais bon, mais après, quoi? Voilà, c'est la seule question.
Exactement. En tout cas, le problème de transparence des élections, notamment en Afrique francophone, se pose également. Tiambele Guimbayara, votre dernier mot par rapport à cette élection présidentielle au Mali demain.
Oui, on espère des élections apaisées, transparentes, moins tumultueuses et puis surtout sécurisées à Kidal dans le Septentrion, mais également pour l'ensemble du territoire. Il faut éviter cette surenchère de... On ne peut pas contester des élections qui n'ont pas encore lieu. On ne peut pas également manifester une victoire qui n'est pas encore acquise. Il faut faire extrêmement attention, être mesuré. Aller d'abord aux urnes et puis vraiment laisser le choix au peuple et son choix sera très certainement le meilleur, le bon pour ça. Mais il ne faut pas l'influencer par une fraude ou par une quelconque façon de s'accaparer du pouvoir. Il faut éviter surtout la surenchère, la violence verbale qui est inutile en ce sens parce que le Mali revient de loin et les yeux du monde entier sont braqués sur le Mali. Il faut que nos hommes politiques en soient conscients et comprennent cela.
En tout cas, merci Tiambele Guimbayara, journaliste à La Voix du Mali de nous avoir accompagnés en direct depuis la France et également notre ami panafricaniste Alain Jules, journaliste blogueur. Merci et effectivement nous souhaitons tout bon, beaucoup de calme demain donc dimanche à tous les Maliens qui iront voter. Merci messieurs et bonne soirée à vous.
C'est le pouvoir en place qui l'a dit. Et l'opposition l'a repris. Même Pipem Taba. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé. Engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on ne sait pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. On est déguisé, engendre les soulèvements. Vite répliqué.
Lacrymogène.
Vite répliqué.
Eh bien, il s'appelle Jad Fosist. Il évolue actuellement en Allemagne. C'est un jeune artiste togolais. Merci d'avoir suivi cette première partie de cette édition. Et la deuxième partie sera consacrée uniquement au dossier togolais, l'actualité politique au Togo avec les élections législatives qui se sont déroulées jeudi dernier au Togo.
Il prétend aimer ce peuple. Il prétend aimer ce peuple.